Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Galère, galère, bonjour à toutes et tous, émission Livres et Amis du 5 janvier 2022. Pour commencer, bien sûr, nos voeux d'une belle année, nos espoirs d'une vie meilleure, moins compliquée. Nous pensons d'abord à celles et ceux qui espèrent l'asile ou qui espèrent un domicile, à celles et ceux qui sont isolés ou déprimés. Espérons que notre petite radio et d'autres ondes aussi apportent la vie, le mouvement, le changement. Nous souhaitons, Françoise et moi, et toute l'équipe de Galère, une belle année à Odile, la créatrice de l'émission. Et à toutes et tous, nous souhaitons des rencontres, des découvertes, un monde plus juste et plus pacifique. En ce début d'année, et pour un mois encore, au MUCEM, une exposition qui parle de la littérature, mais qui ne fait qu'en partir et qui nous ouvre au monde Salammbô. Je vous invite vivement à aller voir cette exposition donc, qui dure jusque début février. En fait, je disais part de la littérature et nous ouvre au monde parce que oui, l'œuvre de Flaubert a été fêtée en 2021, qui marquait le bicentenaire de sa naissance. Et à cette occasion, les musées d'art et du patrimoine de Rouen, Tunis et Marseille se sont réunis pour réaliser cette exposition assez ambitieuse, Salammbô. Salammbô nous emmène à Carthage au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais surtout nous plonge dans un tourbillon d'images et de sensations. L'exposition révèle la portée et les retombées considérables du roman, et oui, un roman de 1862. Et pourtant, Salammbô continue de vivre dans bien des créations artistiques jusqu'à nos jours. Et puis en même temps, pendant qu'on est au MUCEM et jusqu'au 16 janvier seulement, une autre exposition, Europa Oxala, qui présente les œuvres de 21 artistes ou intellectuels dont les origines familiales se situent dans les pays colonisés par l'Europe au XIXe et au XXe siècle. Donc, une espèce de, on pourrait dire, d'envers de Salammbô, puisqu'il s'agit en fait de jeunes implantés en France, mais dont les origines ont été dans ces pays anciennement colonisés, puisque les parents ou les grands-parents des artistes sont nés au Congo, en Angola, en Guinée, au Bénin, en Algérie, à Madagascar. Et ils ont hérité des voix, des gestes et des images avec leurs souvenirs ou leur culture d'origine qui sont un point de départ d'un important travail de recherche et de création. De ce fait, leurs œuvres nourrissent une réflexion originale sur le racisme, la décolonisation des arts ou encore la déconstruction de la pensée coloniale. Donc, une autre échappée avec Europa Oxala. Et pour continuer à parler culture, mais avec d'autres supports, revenons au cinéma. Pour un autre volet culturel, nous voulions vous parler aussi du cinéma et en particulier du Gyptis rue Loubon. La programmation est due aux équipes de la Friche. Et elle vaut bien le déplacement avec, en particulier, outre les films, des rencontres thématiques ou des rencontres avec les réalisateurs. Et puis aussi, pendant le week-end, par exemple, des animations pour les jeunes. Donc, allez, retournez au cinéma, allez-y en semaine aussi, bien sûr. Pour les films, pour des super films au Gyptis et pour une super salle. Et revenons à la lecture. Alors, on a commencé l'émission un tout petit peu en retard. Revenons donc aujourd'hui à Kateb Yassine. En effet, avant les fêtes, nous avions lu Nejma, de Kateb Yassine donc, et nous avions redécouvert avec passion ce roman à la fois réaliste dans le propos et surréaliste dans la forme. Roman passionnant, oui. Nous avons trouvé dans la bibliothèque d'Odile une biographie de l'auteur de Nejma, Kateb Yassine, donc. Et cette biographie est due à la plume de l'un de ses proches amis, Benamar Medienne, pardon. Et nous avons pensé que cet éclairage serait lui aussi passionnant. Le livre de Benamar Medienne, paru en 2006, 15 ans après la mort de Kateb Yassine, n'a rien d'une biographie classique. Voyons d'abord ce qu'en dit Gilles Perrault, l'auteur de la préface.
S'agit-il d'une biographie de Kateb Yassine, auquel l'auteur était lié par une affection fraternelle ? On n'a jamais lu une biographie écrite de cette façon. Un essai ? Le mot est trop austère et trop étriqué pour s'appliquer ici. En vérité, par sa puissance créatrice, l'ouvrage de Benamar Medienne échappe à toutes les définitions. C'est une éruption poétique. Le lecteur en reste médusé. « Bigre !» se fut exclamé Kateb Yassine, qu'on ne médisait pourtant pas aisément. Cette coulée de lave incandescente charrie un pamphlet d'une violence inouïe contre toutes les bigoteries, une critique cinglante des pouvoirs établis qui ont volé la victoire au peuple algérien, la remémoration d'un homme multiple, contradictoire, visité par le génie, immense poète, dramaturge éminent, qui toujours choisit le côté de la vie et dont l'existence chaotique s'acheva prématurément le 28 octobre 1989 dans un hôpital de Grenoble, au pied de ces massifs du Vercors dont il disait qu'il lui était aussi fraternel que les Aurès de ses ancêtres.
Ce ne sera donc pas une lecture linéaire et tranquille. Benamar Medienne revient sur les épisodes de la vie de Kateb Yassine, un peu comme dans le style de l'auteur, par tableaux successifs, en remontant, de l'époque de sa mort, vers différents moments de son existence, qui expliquent son œuvre et son engagement. Mais rien n'est simple. Lyrisme et passion sont toujours là. L'auteur lui-même s'en explique. Il commence au début par motiver, en fait, sa façon de travailler.
Comment déplier le temps, débusquer et saisir ce qu'il retient en chacune de ses pliures ? Parler de où à Kateb Yassine ? Je perçois d'emblée sa vie comme un continent fragmenté. Enchaînement d'archipels avec des îles-mères et des poussières d'îlots, affleurant sous les turbans d'écume et qui auraient pour nom Kateb poésie, Kateb roman, Kateb théâtre, Kateb mythe et, bien entendu, Kateb tel qu'en lui-même, indéfiniment autre. Tout est lié dans les gisements sous-marins. Ce livre sera fait de récits et d'un peu d'histoire. Je n'ai pas opté pour une biographie normative, m'attachant plutôt à figurer un poète souvent tourmenté et révolté, vivant, parlant avec des amis, écrivant. Il m'arrivera de faire des gros plans sur des personnages ou de simples citoyens qui l'auront étonné, inspiré, qui auront aussi marqué, d'une façon ou d'une autre, sa vie et son œuvre. Artiste, il a connu les milieux intellectuels, politiques et artistiques de Paris, Milan, Moscou, Hanoï, Zagreb, Damas, New York, Le Caire, Alger, sans se laisser happer par le conformisme, les artifices, le confort des tables bien mises. Dans ses rencontres avec Ben Bella, Boumediene, Pham Van Dong, Giap ou Mitterrand, il n'a été question, à ce qu'il m'a dit, que d'échanges sur la culture, la littérature, la libération des peuples, les libertés des hommes. C'est en lisant, en écoutant ma propre voix disant un fragment de texte ou un hymne à Nejma, qu'il me devient impossible d'atteindre le temps et le cœur du poème et d'entendre le chant général qu'a des biens. Habiter la terre, être au cœur du monde, Kateb n'a jamais cessé de dire que le poète, comme les enfants, voit ce que les autres ne voient pas ou les voient avant. J'ai essayé de saisir ce que son doigt tendu m'indiquait.
Oui, donc revenons au récit, reprenons en fait, depuis, comme l'auteur le fait, reprenons depuis la mort de Kateb Yacine et déroulons donc à l'envers le fil de son histoire.
Samedi 28 octobre 1989, Kateb Yacine meurt à Grenoble. Dimanche 29 octobre, l'impatient Moufti El Ghazali, cumulant titres et éminences, intime conseiller spirituel du président de la République algérienne et de Madame, prononce une fatwa d'excommunication aggravée d'une relégation au-delà des territoires de l'islam du corps gisant du poète Kateb Yacine. Telle une homélie papale urbi et orbi, il la notifie par la voix des ondes aux citoyens d'Algérie, aux croyants et aux mécréants du monde. Hérétique Kateb Yacine le fut dans sa vie, maudit il le sera pour toujours, sans miséricorde ni rédemption possible. Il ne mérite pas d'être enterré en Algérie, il ne doit pas l'être dans un cimetière musulman.
Mais l'excommunication du Moufti n'empêchera ni l'enterrement en terre algérienne, ni le recueillement, ni les souvenirs. Et c'est donc ce qui va se dérouler à présent au fil des pages.
Je pose sur son front à Grenoble. Je pose sur son front la feuille de platane, brin de végétal, architecture et histoire de toute la nature, couronne d'enfants jouant au roi des aulnes, des chênes, des orangers et des néfliers, arbres gorgés de sève et éclatants de fleurs fruitières, enfants jouant à honorer un des leurs, l'élisant prince des poètes ou archer volant sur son destrier au secours de sa belle. J'accomplis le geste d'un lointain rite funéraire païen, juste pour conjurer l'angoisse dans le jaillissement de mon bras, juste pour compenser l'impensable de la mort par le mouvement ainsi libéré, juste pour bousculer le silence, entendre un chuintement d'écho venu de n'importe où et voir s'agiter quelques ombres sous la lumière crue de la lampe qui pend du plafond. L'absence, le silence, le vide, le froid grossissent, hors de toute mesure et de toute raison. C'est sous le crâne que tout se passe, et le léger brouillard que j'expire semble prendre le volume d'un nuage d'orage. Je reprends la feuille et la garde comme lien et symbole de la durée renouvelée, signe sensitif de l'arbre et de ses couleurs, de sa géométrie et de sa fraîcheur. Une infirmière me remet d'autorité ses affaires. Deux sacs de voyage. Yacine avait en horreur les valises encombrantes, les casernes, les képis, les consignes de gare et les postes frontières qu'il voulait rapidement franchir sans avoir rien à déclarer. J'hésite, n'étant ni héritier ni notaire, à prendre les bagages. Je les remettrai tout à l'heure à ses enfants, Amazigh, Hans et Nadia, sa fille aînée, que je ne connais pas encore. Nadia ne viendra pas. Le premier sac, en toile synthétique, contient ses vêtements. Le second est en cuir marron clair, usé et écorché des pérégrinations du sans domicile fixe qu'il était. Ils étaient à la fois sa maison nomade et sa besace à secret. L'infirmière, avare de discours, les a ouverts en gestes mécaniques et précis pour signifier que tout est là, qu'il faut vite libérer la pièce, attendue par un autre patient. La scène, expéditive et insolite, m'a paru déplacée. J'ai l'impression d'être un prisonnier libérable à qui un gardien greffier neurasthénique restitue son pécule, sa montre, ses lettres et ses photos. Elle étale sur le matelas nu, où une literie propre pliée attendait le nouveau malade, objet après objet, le contenu des sacs. Des livres, un blaireau, un rasoir mécanique, une carte de téléphone, une brosse à dents, quelques billets de banque, des pièces de monnaie, un agenda noir au feuillet désarticulé, solidement attaché par une ficelle, un carnet à spirale et à couverture jaune, des cassettes audio et un poste radio, une grosse enveloppe en craft contenant d'autres enveloppes, d'autres lettres, d'autres pages de notes griffonnées en tous sens, soulignées, cerclées, raturées. Toutes ces choses médiatrices entre l'intime, le secret de soi et le reste du monde et ses contingences. Sur la table de chevet est posée une petite pyramide de livres. De son bras en demi-cercle, l'infirmière écroule l'édifice et les livres tombent en vrac dans le sac qu'elle maintenait ouvert de son autre main. Excédée par l'attitude d'huissier de la soignante, Hans et moi exigeons quelques minutes pour mettre de l'ordre dans ce déménagement qui ressemble à une urgente opération d'expulsion. Elle nous accorde 10 minutes et quitte la chambre en marmonnant son impatience. Poème d'Hölderlin. Yacine y tenait beaucoup. Il l'ouvrait à tout moment de la moindre solitude ou de repli sur soi, quand une conversation l'ennuyait, quand un avion ou un train tardait ou un tracas le préoccupait. Ce dernier ouvrage d'une collection de poches détériorées était aussi familier, précieux et nécessaire à mon ami que pouvait l'être sa montre, son agenda noir ou un objet fétiche. Et s'il avait eu un fétiche, cela aurait été un chat. Il faisait bon ménage avec Kimi, notre chatte siamoise, rebelle, orgueilleuse et aussi hautaine qu'une reine d'Égypte. Rares étaient ses élus de sa race ou humains. Dès que Yacine s'affalait sur un fauteuil, elle déployait tout son corps sur ses genoux et dans une posture souveraine ne tolérait aucun mouvement des jambes. Les chats sont les seuls bourgeois avec lesquels il est possible de passer un pacte, disait-il pour justifier sa totale soumission aux caprices de la chatte, et il ajoutait en caressant la bête entre les yeux et sous le cou, « Les chats voyagent pour le plaisir et sans naufrage, ils n'entretiennent aucun feu, c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. »
Donc après cette évocation domestique, revenons au choix littéraire de Kateb Yacine, et en particulier aux dernières œuvres, avec lesquels il a été familier.
À Grenoble, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1989, j'ai feuilleté Poème d'Hölderlin et lu d'un seul trait Le Concile d'amour d'Oscar Panizza. Je commence à te comprendre, Yacine. Je sais pourquoi ce livre fut l'une de tes dernières lectures. Ce qui t'a étonné chez Panizza, c'est l'homme insurgé qu'il fut, affrontant en solitaire l'autorité du monarque et celle de Dieu. C'est la liberté de penser, de créer, de transgresser. La pensée impossible à cadenasser et qui va rôder autour des citadelles interdites de tous les dogmes, les fissurer et dévoiler une parcelle de leurs secrets. Le livre de Panizza, édité chez Jean-Jacques Pauvert et préfacé par André Breton, qui, dit-il, est un fleuve de feu. Un fleuve qui gronde et dévore les grands symboles liturgiques du christianisme. Le livre n'est pas blasphématoire, il est l'hérésie incarnée en son absolu. Une mise en scène où le blasphème tient le premier rôle et tous les autres. Avec Hölderlin et Panizza, il a partagé la haine des seigneurs, des prélats et des dogmes cordés comme des camisoles, minéralisés et tranchants comme des hachoirs.
Après l'évocation des dernières lectures de Kateb Yacine, c'est le retour vers l'Algérie pour l'inhumation. En fait, l'inhumation aura lieu en terre algérienne et il y a même des cérémonies qui entourent cette inhumation.
Dès le pied posé sur le tarmac, tout se réinstalle dans la réalité. Alger se reconnaît à ces bruits, à cette agitation dont personne ne comprend le pourquoi, à la matière négligée dont les policiers et les douaniers de faire glisser leurs casquettes sur la nuque. Vieil atavisme anarchiste, je reconnais mon territoire. J'entends les voix de la foule qui attend le convoi funèbre. La présence d'Ali Zamoun et d'autres amis me rassure, me réconforte et me libère de l'angoisse qui m'oppresse depuis 5 jours. Le secrétaire du FLN, le chef du gouvernement, des ministres, des diplomates sont à l'entrée du salon d'honneur. À moins d'être en costume cravate, c'est-à-dire clandestin, aucun noble de religion n'est repérable dans les rangs officiels, pas le moindre signe, ni ostentatoire, ni discret. Le ministre des Affaires religieuses est à ses affaires, le Haut Conseil islamique à ses livres, le grand moufti à ses grandes ablutions et à ses fatwas. Sacré Yassine, il a fallu que tu meures pour que tout le pouvoir, État et parti unis, déployant le grand cérémonial, vienne te recevoir à la descente d'avion. Suspect. Question à réponse multiple et hypothèse invérifiable. Qui, de Kateb Yassine ou de son cousin Mustapha Kateb, vient-on accueillir en parade officielle? Apparatchik culturel de longévité étonnante, Mustapha, qui fut directeur du Théâtre national et des ballets, n'a connu depuis l'indépendance que des disgrâces d'humeur, passagères, notifiées du bout de l'index, jamais la relégation ni le renvoi. Comment doit réagir le furieux moufti devant tant d'honneurs dispensés par la haute hiérarchie du parti et de l'État au corps gisant du poète, pourtant publiquement déclaré hérétique par ce même moufti? À l'aéroport, Ali Zamoun et moi échangeons nos impressions sur l'impénétrabilité des voies du pouvoir et aboutissons à la même conclusion, valable pour toutes questions et toutes hypothèses. Double jeu, mensonge par omission, par silence, par lâcheté, duplicité. Que seraient devenus les philosophes? La philosophie et même la pensée universelle sans ses exilés, ses pénitents, ses bannis, ses suppliciés, sans El Hadj, Ibn Rushd, Bruno, Galilée, Descartes, Spinoza. Alors, pourquoi aujourd'hui ce retour aux âges farouches voulu par des imams qui utilisent la télévision et l'ordinateur pour annoncer au monde qu'un poète mort est banni des terres et des cieux de l'islam?
Ce que, évidemment, ici, l'auteur de la biographie remémore, c'est à la fois les bannis des temps anciens et la violence qui va prendre place, ou qui est en train de prendre place en Algérie à cause des luttes religieuses.
La sentence de déchéance post-mortem de ses qualités de musulman et d'algérien renvoie le poète Kateb à un exil au-delà des exils. L'autorité religieuse, gorgée de certitudes minéralisées, assène son jugement qu'aucune autorité politique du pays ne discutera et encore moins ne désavouera. Le pouvoir ne contredit ni ne défait ce que le moufti dit et fait. Ceci est dans l'ordre des choses et en cette fin 1989, depuis octobre de l'année précédente, une cléricature hirsute aux uniformes afghans mobilise ses prédicateurs, exalte la charia, fourbit ses armes et apprend à marcher au pas, en scandant la profession de foi sur des airs martiaux, répétés mille fois jusqu'à l'épaississement de l'atmosphère par ce chant lugubre « Il n'y a d'Allah qu'Allah, pour toi je vivrai, pour toi je combattrai, pour toi je mourrai et je te rencontrerai ». La fatwa se démocratisera, elle se fera exterminatrice. Tuez tous ceux qui ne sont pas avec nous, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, tuez, mourez, et vous, purificateurs martyrs de la divine cause, vous serez appelés à partager le repas céleste à la droite du Seigneur. Ainsi hurleront les hordes de spadassins nocturnes des GIA.
Oui, c'est un peu une vision du présent qui est bien sûr sombre, mais qui va aussi être une vision d'avenir pour ces années sombres de l'Algérie. Et avant d'en venir à la suite, nous allons prendre quelques notes de musique qui sont celles de l'indépendance algérienne.
The war the peace has just begun. Peace and independence. In July 1962, notice of a referendum was posted throughout the land. The referendum asked but a single question. Do you approve of Algerian independence and cooperation with France? The answer that would be given at the polls was evident. Rapidly throughout the land, Algerians expressed themselves with slogans and flags. Where no flags of the new Algeria were available, they were made on the spot. A holiday spirit prevailed. But for all the surface gaiety, there was deep realization of the solemnity of the occasion.
Oui, donc à l'hymne algérien se mélangeait le commentaire d'un journaliste britannique qui nous disait que, en effet, on fabriquait des drapeaux là où il n'y en avait pas de disponible. Ce fameux drapeau blanc et vert avec le croissant et l'étoile rouge a été cousu partout en Algérie en 1962. Et c'est ce drapeau, évidemment, qui était agité en même temps que la musique était diffusée. Revenons à Kateb Yassine. C'est vrai que la vie de Kateb Yassine sera toujours parallèle à celle, enfin, à l'histoire de son pays. Donc, sa vie était parallèle à la vie du pays. Son histoire était parallèle à l'histoire du pays. Et c'est ce que va nous dire de façon répétée Benamar Mediane. Au fur et à mesure de sa biographie, il souligne justement la liaison perpétuelle, pourrait-on dire, entre la vie de Kateb Yassine et l'histoire de l'Algérie. Revenons à l'inhumation de Kateb Yassine.
Mercredi 1er novembre 1989. Aujourd'hui, Kateb Yassine sera inhumé. Ce jour n'est pas une simple encoche dans le calendrier. D'entre toutes les dates, celle-là est, pour les Algériens, une polarité. Il célèbre le début de la geste populaire, achevée 7 années et demie plus tard, dans la naissance de leur nation. L'histoire, ici, et maintenant arrêtée, s'ouvre sur un tempo de fête qui n'aura pas lieu. Un ami m'a rapporté une conversation tenue par un quatuor de joueurs de domino dans un café près des abattoirs d'El Arach.
En fait, y a une réponse aux anathèmes du Moufti dans l'œuvre de Kateb Yassine lui-même, puisque son œuvre est une référence permanente aux écrivains, aux poètes, aux intellectuels du passé et du présent. C'est une porte ouverte sur le monde et sur l'universalité de la pensée. Mais quant au calendrier de l'inhumation, donc, qui s'oppose finalement à l'anathème du Moufti, il y a aussi une véritable présence de Kateb Yassine dans le cœur des Algériens. On va voir là un témoignage du fait que, comme un parallèle à l'histoire de l'Algérie, avec le 1er novembre donc, il y a dans le cœur des Algériens une présence permanente de Kateb Yassine et bien des témoins populaires affirment leur fidélité.
Un ami m'a rapporté une conversation tenue par un quatuor de joueurs de domino dans un café près des abattoirs d'El Arach le lendemain de l'annonce excommuniant l'écrivain. Kateb Yassine jubilerait devant cette scène. Il l'aurait ajouté à l'une de ses pièces. La poudre d'intelligence où les ancêtres redoublent de férocité. Il aimait fréquenter ces lieux où l'humour s'invente et se décline à tous les temps. Kateb Issiakem, le sculpteur d'Emag, et moi allions parfois dans ce café où les ouvriers des abattoirs venaient taper le carton, frapper les dominos et boire quelques abou nouas, une bière un peu sûre, brassée dans le quartier. Ce lieu était notre journal théâtralisé, sans décor ni maquillage ni prompteur. Les informations et les commentaires y étaient donnés par ceux qui les vivaient. Il y avait du pathétique et de l'hilarant, une anthologie de vie du peuple, de la basse ville, celle où l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas beaucoup. Images et sons en direct. Leurs propos sont vrais, je les rapporte librement. Mon vocabulaire et mon style n'en sont que les véhicules. « Oh, les buveurs de café, prince des doubles six !» lança le premier des quatre chômeurs, un grand gaillard au nom de moustache, parce que gravement moustachu, la voix gutturale et le dos en ballon de rugby, d'avoir été longtemps portefait au port. « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu hier soir à la TSF ?»« Non, non, il ne s'agit pas du tremblement de terre qui a paniqué l'ouest d'Alger. Ça m'a l'air beaucoup plus sérieux. Une damnation !» Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous garde. Une damnation officielle. Puis, avec une pointe de sarcasme enrobée dans une étonnante référence politico-historique, ce Kateb Yassine, qui porte un nom tellement musulman, est-il un criminel de guerre que notre vaillante sécurité militaire a neutralisé? Un des chefs de l'OAS qui aimerait être enseveli en terre algérienne? Une terre qu'il a brûlé avant de se mettre à l'abri chez le général Franco, l'expert en garrot, un néo-harki qui a trahi sa patrie, la cause du socialisme et injurié le FLN, un parricide? Je ne comprends pas. Les télévisions étrangères et la presse nationale disent que c'était un grand écrivain. Pas étonnant avec le nom qu'il porte. Faut croire que nos gouvernants ne lisent pas les journaux autorisés, ni ceux qu'ils impriment eux-mêmes. Sinon, ils sauraient que c'est un grand monsieur. Ou alors, il y a beaucoup d'eau dans le gaz là-haut à la présidence, au Tajarin, siège de la défense nationale, et à la grande mosquée, pour laisser un étranger, même s'il est moufti, se mêler de nos problèmes. C'est que l'ingérence dans les affaires nationales et dans nos problèmes avec Dieu. C'est de l'ingérence dans les affaires nationales.
Oui, donc en fait, dans le cœur des Algériens, Kateb Yassine demeure. Et bien d'autres témoins populaires affirment leur fidélité à l'écrivain face au moufti, qui est ici qualifié d'étranger, puisqu'en effet, il est égyptien. Leur soutien est dans la ligne de du soulèvement populaire qui avait eu lieu à Alger un an plus tôt. Benammar Medyen y revient et Kateb Yassine rattache ce souvenir à celui du soulèvement de Sétif en 1945, comme il revient en fait sur la genèse de Nejma. Donc peu à peu, personnes et personnages sont liés, personnes et personnages sont rapprochés à la fois par Kateb Yassine et par Benammar Medyen.
Le poète dans Alger insurgé. Un an avant sa mort, nous étions au début d'octobre 1988 à Alger. Des milliers de jeunes s'étaient emparés de la rue. Embrasement. Kateb Yassine, regard aigu, inquiet. De sa mémoire en vrille descendit lentement un poème d'antan qu'il récita comme si, à l'instant, il traduisait en verbe les fureurs de la rue, clamées par une jeunesse au regard sévère et la rage aux dents. Pour vos cœurs de bétail pensif et vos bras sains et lourds de sueur, vos bras portent le calvaire de vos existences de renoncement. D'abord, c'est une dérive d'idées qui m'a renvoyée au 8 mai 1945 à Sétif. Je me suis retrouvée dans cette ville en folie, en état de siège. Je n'avais pas encore 16 ans, l'âge de ces jeunes bras. J'allais connaître l'ivresse de la peur qui te fait sortir de ton corps et affronter les périls parce que d'autres qui te ressemblent marchent devant toi, titubent et tombent sous la mitraille et les coups sur la nuque. D'autres sont arrêtés, ligotés et les pieds entravés, enfermés dans des écuries, des étables, des hangars ou des casernes désaffectées. Nous attendions notre tour, être interrogés ou fusillés. J'étais l'un de ces prisonniers, moi le collégien dont les adultes ébouriffaient les cheveux pour me donner du courage ou me consoler. Moi qui récitais à voix basse en guise de prière un poème de Baudelaire, de Nerval ou de Rimbaud. Et il y avait ce policier, français musulman, agent des renseignements généraux, un homme bizarre et inquiétant. Fou amoureux, il me faisait écrire des lettres enflammées à sa maîtresse, une douteuse Madame Suzanne. déjà écrivain public, ici, contraint et forcé. Sorti de l'enfer, j'ai erré dans Sétif et Beaune, rencontré Nejma et voulu avoir le secret de sa filiation, espérant élucider du même coup l'énigme de ma tribu. Elle était ma cousine, mon corps était près d'elle, mon esprit dans la fiction. J'étreignai mon amante et pleurai Nejma, à peine advenue déjà partie. J'ai écrit, et écrire, c'est rendre au mythe sa vérité et au temps ce qui lui manque d'infini. La mère de Nejma était peut-être française ou juive, amante d'un notaire marseillais, enlevée par de lointains héritiers de l'ancêtre Kebloot, héritier jouisseur jusqu'à la dépravation et au meurtre. Abandonnée dans une grotte du Nador, où elle a donné le jour à Nejma, cette femme aurait perdu la raison et sa vie s'est dissoute dans l'oubli. Par Nejma écrite, la française ou la juive s'est réincarnée. Je l'ai appelée Hélène et pour elle, une guerre des Kebloutis eut lieu. La femme dont le ravin d'Alger porte le nom s'appellerait Baya, comme la mère de Nejma. Baya, une fière beauté, harcelée par les entremetteurs d'un aristocrate ottoman qui voulait en faire la favorite de son harem. Pour y échapper, elle se serait réfugiée dans cette citadelle de ronces. Le qualificatif d'El Badia, proche synonyme de Baya, accolé à Alger, fonde et pérennise la légende du beau et de l'allégresse que les bardes chantent quand ils regardent leur ville, en faisant gémir leur lutte et syncoper leur derbouka. Ma mère, après les désastres du 8 mai 45, est devenue la femme sauvage, enfermée dans le ravin de l'hôpital psychiatrique. Ma mère, enserrée dans les bandelettes invisibles de la momie vivante. Ma mère, rose noire de Blida, que Franz Fanon soigna. Ma mère, la rose noire qui descendit de son rosier et prit la fuite. Mère, ne sait plus parler sans se déchirer le visage, en levant ses prunelles taries au ciel. Je ne vois pas de distance entre Bellecour et sa jeunesse ardente d'un côté, et de l'autre, le ravin peuplé d'incroyables amazones ou de sirènes forestières. Un clan matriarcal où se perpétuent l'histoire et les légendes de la Kaïna, de Fatma Nsourmer et de Nejma, de ma mère. Je voulais un signe d'alliance entre classes légendaires et celles vivantes d'aujourd'hui et suggérer à ces dernières l'idée qu'un mythe de cette grandeur et de cette force est une armée de réserve prête à sonner les trompettes au pied des murailles de la Casbah. Nous avons besoin de notre histoire et de nos légendes pour lancer nos grenades. Je ne les évoque pas par manie et nostalgie d'écrivain bavard. Je connais toutes les pistes qui conduisent au ravin pour les avoir arpentées avec Momo de la Casbah et Zinette quand ce dernier réalisait son film Taïa Yadidou dans lequel Alger était la vedette et Momo son esprit.
Donc en permanence dans l'œuvre de Kateb Yassine, comme on l'a bien vu dans ces quelques lignes, on retrouve mêlée l'histoire, la fiction, la politique, les aspects personnels, les aspects plus sociaux et plus généraux de la population. Donc, on va reprendre quelques notes de musique et on reviendra ensuite sur la biographie écrite par Benamar Médiane.
Concert de musique et de chants patriotiques pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie a évidemment débuté par l'hymne national, entonné devant un public debout par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, la chorale Ranim El Wissal et trois ensembles de la garde républicaine.
La particularité de cette représentation, c'est qu'elle comprend une fusion de l'Orchestre symphonique de l'Opéra Boualem Bessayah avec trois ensembles de la garde républicaine et une chorale.
Cette grande soirée commémorative a vu la participation de l'ensemble de cornemuses Elmswood de la garde républicaine qui a joué en deux parties une dizaine d'extraits du riche patrimoine musical algérien dans ses variantes kabyle, chaoui, sahraoui, naïli, assimi et bedoui. L'orchestre de la garde républicaine, sous la direction d'Eliès Snoussi, a ensuite pris le relais, interprétant un riche répertoire, dont l'incontournable Minji Balina. La soprano Lamia Aitamara est ensuite apparue sur scène en cantatrice, interprétant avec sa voix suave « Aleiki Minni Salam ».
C'est un honneur pour moi, en tant qu'artiste, de chanter l'Algérie pour la première fois, accompagnée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra et de l'Orchestre de la Garde républicaine.
L'artiste a également interprété la mythique Jawhara de feu Jamal Allam.
Oui, donc c'était quelques images et images musicales de l'anniversaire des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie pour montrer que, effectivement, tous les artistes, en tant que musiciens, en tant que chanteurs, participent à cette commémoration, un petit peu comme dans l'histoire de Kateb Yassine, tous les artistes sont mélangés et tous les types d'art surtout. Puisque en fait, Kateb Yassine était l'ami de plasticiens, d'écrivains, d'intellectuels, avec qui il a sans arrêt lié des contacts et avec qui il a sans arrêt communié à travers des œuvres. On va reprendre aussi avec le mélange, disons, de la politique et de la philosophie, qui est bien décrit par Benamar Medine.
Pourquoi nos autorités politiques exercent-elles avec autant de maladresse et de brutalité leur pouvoir et sont comme ces apprentis coiffeurs qui apprennent sans ménagement leur métier sur la tête des orphelins? Sommes-nous condamnés à vivre dans un vaste orphelinat soumis à la férule de parâtres irascibles? De qui ou de quoi ces tuteurs se vengent-ils en nous maintenant dans cet état de minorité coupable, sans espoir de grandir et anticipant la sanction comme si tout un peuple était un délinquant en puissance. Même leur vocabulaire politique est menaçant. Comment Boumédienne a-t-il qualifié son coup d'État du 19 juin 1965 de sursaut révolutionnaire, de redressement? Sursaut, redressement, deux mots qui sonnent comme deux coups de sirène au réveil d'un cauchemar sur une paillasse de caserne, celle d'une cellule capitonnée d'un asile ou sur la paille souillée d'urine d'un cachot de maison d'arrêt. Avant le 19 juin, nous étions un peuple de tordus assoupis. Notre direction politique est la seule au monde à faire d'un mouvement de gymnastique à la fois un programme politique et idéologique et un exercice national de correction corporelle. Une révolution saine dans un corps droit. Qualifier un coup d'État militaire de sursaut et de redressement révolutionnaire, d'abord, ça sent l'asile psychiatrique et les brûlures des électrochocs ou la caserne fermentée, et ensuite, ça met fin à la dialectique. Eh oui, comment sursauter et se redresser tout en étant maintenu dans la léthargie courbée et la bouche scotchée? Cela rappelle le 6 Mokhtar de Nejma, circulant dans les rues de Constantine avec un ruban adhésif collé sur la bouche, sur lequel il avait écrit « Vive la France, les Arabes, silence !» L'Algérie, grosse d'elle-même, écartelée au forceps, entre en Gézine dans la dernière nuit d'octobre de l'année 1954 et se libère après 7 années et demie de hurlements et de douleurs. Et ce sera enfin l'arbre de la nation s'enracinant dans la sépulture tribale, sous le nuage enfin crevé d'un sang trop de fois écumé. Cette date des commencements devient belle quand une autre achève et évacue le temps des deuils, des déchirures et du goût âcre des mitrailles. Trop grave, trop lourd, ce temps pour rester accroché au présent des femmes et des hommes, Alors, à midi, du nouveau calendrier, l'histoire se prononce. Ce temps achevé est désormais le mien. Je le happe, et même si un rien le sépare d'hier, il habitera mes flancs. Libérez vos mémoires encombrées de tant de hantises et sautez la ligne de démarcation entre l'avant des horreurs et le maintenant des possibles. Ceci est essentiel pour le dénouement de la tragédie, où la légende se montre plus vraie, plus généreuse, plus lucide que moi, l'histoire. Saint-Just, ô Saint-Just, viens à ma rescousse. Répète devant mes compatriotes ce que tu disais à tes pairs de l'Assemblée. Comment arracher le pouvoir à cette loi d'inertie qui le ramène constamment à l'isolement, à la contrainte, à la cruauté? Tous les arts, ajoutais-tu, ont produit leurs merveilles. Seul l'art de gouverner n'a produit souvent que des monstres.
Oui, art et art de gouverner, opposition effectivement dans ce cas entre les artistes qui veulent toujours plus de liberté, qui revendiquent bien sûr leur liberté d'expression, et en même temps l'opposition des artistes donc à la politique, comme l'a souligné Kateb Yassine dans son œuvre, et comme le souligne ici Benamar Medien dans sa biographie. On va retrouver à nouveau dans les pages qui suivent mêlées les références littéraires, les références philosophiques et puis l'opposition politique.
L'enterrement de Yassine ressemble à sa vie. Étrange et surréaliste enterrement en ce 1er novembre 1989. Il subvertit de manière imprévue ce qui devrait être une fête, depuis longtemps amputée de sa part populaire et joyeuse, lui donnant pourtant une ampleur inattendue, dénuée de tout pathos et de tout vacarme. Une foule innombrable, ouède en cru, grossie de renforts surgis de partout, multitude de femmes et d'hommes venus du voisinage et du plus lointain des ailleurs, afflue vers le centre familial de Ben Aknoun, où le catafalque de Yassine a été déposé, au seuil du petit pavillon que des amis du ministère du Travail lui avaient attribué. Dès l'aube, encore grise d'un brouillard cotonneux, des groupes de femmes, d'adolescents, d'hommes se forment dans les allées et d'heure en heure les débordent, les saturent. Le boulevard extérieur est occupé par des centaines de véhicules, des milliers de personnes, bien au-delà de la portée du regard. Le cortège funèbre, submergé par sa propre puissance émotionnelle, est désordonné. Incapable de la contenir, femmes et hommes la convertissent en chants rythmés par les carcabous, les ornas, les bendirs, les trompettes, guitares et autres tambourins. Un chœur populaire entonne l'international en français, la reprend en tamazic, puis Min Jibalila, notre chant des partisans, lui succède en arabe. Les youyou roulent, s'amplifient et donnent au difficile départ du convoi l'allure d'une procession festive d'un grand maoussem, une fête confrérique. En pays d'islam, par tradition, l'enterrement est affaire exclusive d'hommes. Ce n'est que le lendemain que les femmes peuvent se rendre au cimetière pour se recueillir sur la tombe du disparu et l'arroser d'une cruche d'eau. Le rôle des femmes est de rester à la maison du défunt, de former le cœur des pleureuses en lacérant le visage et la poitrine, en élevant leurs lamentations vers le ciel. Le seuil de la maison du mort est la dernière limite à ne pas franchir. Elles doivent rouler le couscous, tenir le feu et préparer le repas de l'absent. Ce jour de l'enterrement de Yassine, ce jour de 1er novembre, décidément peu orthodoxe, des Algériennes refusent d'être tragédiennes de figuration. Elles seront debout sur le front du refus. « Lisez Aristophane !» leur lance la voix de Yassine, surgit de l'invisible. Et puis, votre mort, Kateb Yassine, a un lien de parenté avec Aristophane, Échille, Sophocle. Il subit la loi ignominieuse d'un Créon à Chapelet qui lui refuse un enterrement auprès des siens. Soyez un collectif d'Antigone. Ensevelissez votre poète comme la fille d'Œdipe a enterré son frère Polynice selon les rites d'Athènes. Voici quelques branches d'olivier que je vous remets au nom d'Athéna, d'Antigone et du mien, vous les déposerez sur la tombe de votre poète, désormais le nôtre. Soyez intransigeante. La race des femmes n'est pas condamnée à être rivée au malheur et au silence. Refusez d'être enterrée vivante. Antigone a payé pour vous. Les femmes d'Alger ont entendu Lysistrata et se sont souvenues d'Antigone. Aujourd'hui, elles abandonneront les batteries de marmites, les cruches de vaisselle et les fourneaux ne leur brûleront pas les mains. La progéniture braillarde attendra le retour de la mère et du poète et du père. Ils iront au cimetière. Elles se dirent qu'Ateb Yassine était des nôtres. Il a mêlé sa voix à nos chants. Il était et reste notre orgueil fraternel et inaliénable. L'enterrement de Yassine impulse et fortifie les résistances, instaure un patrimoine démocratique. Extraordinaire personnage qui fait de sa mort un acte laïque, plébiscité et avalisé dans un cimetière par des milliers de femmes et d'hommes. Les voix démultipliées des femmes accompagneront plus tard au cimetière d'Azéfoun le cercueil de Tahar Djaout, poète assassiné le 26 mai 1993 par des spadassins du djihad islamique. Islamistes. Elles seront également présentes au cimetière d'Aïn Beida d'Oran lors des obsèques du dramaturge Abd el-Kader Aloula, lui aussi assassiné par les mêmes nervis tueurs le 10 mars 1994. L'anathème porté contre Kateb Yassine par le Mufti el-Ghazali est devenu 3 ans plus tard fatwa, rendant licite les assassinats prononcés et exécutés à la balle, à la scie, à la hache et au couteau, au rythme d'un abattoir un jour de grand marché. Changeons pour être dans l'esprit de Kateb, l'ordre des choses, et laissons-le lui-même nous faire ses adieux. Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire, et je sais que ce soir monteront des chants infernaux. Voici le coin debout où dormait mon front fier, au hurlement des vents, par les cris de décembre, voici ma vie à moi, rassemblée en poussière.
Voilà, nous clorons pour aujourd'hui sur ces mots de Kateb Yassine, des mots universalistes, un petit peu comme on avait vu dans les pages qui avaient précédé son féminisme quelque part et son ouverture à tous et toutes dans le monde. Donc nous allons vous laisser continuer à feuilleter la biographie de Kateb Yassine. On aurait pu bien sûr aller vers davantage d'internationalisme, on aurait pu aller vers son expérience de journalisme. C'est difficile dans le temps qui nous reste d'évoquer tout cela, mais revenons bien sûr sur sa mémoire avec l'universalité de la biographie qui a été écrite. Et ouvrons de façon générale notre réflexion aux intellectuels, à ceux qui nous poussent à toujours trouver des angles de vue neufs pour analyser la réalité et le monde qui nous entoure. À bientôt.